Le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La confusion toujours en Allemagne après qu'un homme au volant d'un poids lourd volé a percuté plusieurs voitures hier soir dans l'ouest du pays, faisant une dizaine de blessés. La police tente encore d'éclaircir les motivations de cet acte et dit n'exclure pour l'heure aucune piste.
Emmanuel Macron promet un combat sans relâche face au terrorisme islamiste.
Et le chef de l'État qui s'exprimait ce matin dans la cour de la préfecture de police de Paris à la cérémonie d'hommage aux quatre fonctionnaires tués jeudi dernier. De plus en plus de Français ont le sentiment de souffrir d'un déclassement social. C'est ce qui ressort d'une étude de l'IFOP publiée ce matin. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'Institut. Enfin, une nouvelle volte-face signée Donald Trump après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie. Le président américain a finalement fait marche arrière hier et menace même à présent la Turquie. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'islam est-il une religion différente des autres? Est-il une religion politique? On en parlera avec nos deux invités, les philosophes Rémi Brague et Souleymane Bachir Diagne. Ils ont orchestré sous la gouverne de Michel Elchaninov un dialogue sur l'islam, une controverse qui paraît aux éditions Stock.
Merci et à tout à l'heure. Même si en de telles circonstances, il convient toujours et encore de rester prudent quant à l'interprétation des faits. Le scénario, malheureusement maintes fois écrit par le passé, ne peut que réveiller aujourd'hui d'inquiétants et douloureux souvenirs. En Allemagne, un homme au volant d'un semi-remorque volé a percuté plusieurs voitures hier soir à Limbourg dans l'ouest du pays, faisant une dizaine de blessés avant d'être arrêté. Alors, attaque terroriste au camion bélier ou acte d'un déséquilibré, la police n'exclut pour l'heure aucune hypothèse. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. En sait-on davantage ce matin, Ludovic, sur les motivations obscures de ce chauffeur fou?
Mais il y a bien des soupçons d'attaques terroristes qui ont conduit le parquet fédéral à Francfort à reprendre en main tôt ce matin ce dossier, mais le porte-parole du procureur estime qu'il est encore trop tôt pour donner des informations plus précises sur ce mobile, alors que plusieurs médias allemands citant des autorités de sécurité, une source assez floue, vous le reconnaîtrez, citant donc ces autorités de sécurité, affirment que les enquêteurs privilégiaient tôt ce matin la piste d'un acte terroriste. Il est 17h hier soir, quand un homme se dirige vers le chauffeur d'un poids lourd à l'arrêt à un feu rouge, ce chauffeur témoigne, il est venu vers moi, les yeux grands ouverts, je lui ai demandé « qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il n'a pas dit un mot, je lui ai redemandé et m'a tiré hors de mon camion. Quelques minutes plus tard, il est 17h20 en pleine heure de pointe dans le centre de cette ville de 35 000 habitants, quelques centaines de mètres à peine après avoir volé le camion, l'homme a percuté une série de voitures, 7 voitures au total et fait 8 blessés avant de s'arrêter sur le terre-plein central. L'homme au volant est lui aussi blessé. Il est entre les mains de la police. Alors qu'il est, il est âgé de 32 ans. Il est originaire de Syrie, vit en Allemagne depuis 2015, connu uniquement pour des infractions liées à la drogue et pour des faits de violence. Le bureau du procureur de Francfort donnera un peu plus tard dans l'après-midi tous les éléments dont il dispose, notamment les résultats de la fouille la nuit dernière du logement de l'auteur des faits.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Alors parce que les mobiles d'un individu isolé ne sont jamais suffisamment explicites pour permettre de tirer des conclusions générales, mais aussi parce que la crainte existe toujours qu'un possible nouvel attentat n'attise la haine contre les musulmans, voilà qui incite sans doute aujourd'hui les enquêteurs comme les responsables politiques à la plus grande prudence, même si en l'occurrence on ne rappellera jamais assez combien chaque attaque islamiste constitue également une attaque contre l'islam. Et la question se pose évidemment avec une acuité toute particulière en France depuis la tuerie à la préfecture de police de Paris. Pourquoi Christophe Castaner a-t-il tardé à révéler que le meurtrier s'était converti à l'islam et que selon un nombre croissant d'éléments, il semblait s'être radicalisé? Toujours est-il que cette attaque sans précédent continue de susciter nombre de questions et de critiques contre le ministre de l'Intérieur. Celui-ci a été entendu ce matin à huis clos devant la délégation parlementaire au renseignement, de même que son secrétaire d'État et ancien patron de la DGSI, Laurent Nunez. Le locataire de la place Beauvau sera également entendu cet après-midi, cette fois-ci, par la commission des lois de l'Assemblée nationale avant celle du Sénat jeudi. Et puis parallèlement, l'enquête donc se poursuit. Vianney Smiarowski, bonjour.
Bonjour.
Hier, les enquêteurs ont retrouvé sur le lieu du travail de l'auteur de la tuerie une clé USB contenant des vidéos de propagande du groupe État islamique avec des scènes de décapitation et plusieurs dizaines de noms et données personnelles de fonctionnaires à la direction du renseignement de la préfecture de police.
Une clé USB avec des contenus qui interrogent beaucoup les enquêteurs. On ne sait pas encore ce que Michael Harpon comptait en faire. On ne sait pas non plus si l'auteur de l'attaque a transmis ses informations à un tiers. Les supports informatiques sont d'ailleurs encore en cours d'analyse. Ce qui est inquiétant, c'est que cet informaticien de 45 ans était habilité au secret défense jusqu'en 2020. Il avait donc accès à des informations qui peuvent nuire gravement à la défense nationale si elles sont divulguées. Il travaille à la direction du renseignement de la préfecture de police depuis 2003, converti à l'islam depuis une dizaine d'années, selon le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. On ne sait pas encore précisément à quel moment il aurait adhéré à une vision radicale de l'islam, mais ça s'est fait après son embauche à la préfecture. Toujours selon le procureur antiterroriste, les investigations ont permis d'établir des contacts entre l'auteur des faits et plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste. En 2015, deux de ses collègues avaient rapporté à leur responsable en charge des signalements de radicalisation qu'ils l'avaient entendu se réjouir de l'attentat de Charlie Hebdo, mais rien n'a été consigné à l'écrit, aucune mention dans son dossier administratif. Un dysfonctionnement admis par Christophe Castaner. Les enquêteurs recherchent d'éventuels complices aussi au sein des milieux radicaux. À ce stade, l'hypothèse selon laquelle Michael Harpon aurait fait partie d'une cellule djihadiste est écartée, selon le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez. C'est en tout cas ce qu'il a dit dimanche. Les enquêteurs s'interrogent aussi sur la compagne de l'assaillant. Elle a été remise en liberté dimanche soir après 3 jours de garde à vue, sans être poursuivie à ce stade. Elle s'était inquiétée du comportement inhabituel et agité de son compagnon la veille de l'attaque et avait échangé plus d'une trentaine de SMS à connotation religieuse avec lui le matin même des faits.
Merci Vianney Smirowski. Alors ce matin, Christophe Castaner a remis à titre posthume la Légion d'honneur aux 4 victimes de la tuerie. Et puis un peu plus tard, c'était au tour du chef de l'État, accompagné du chef du gouvernement et de ses ministres de la Justice et des Armées, de prononcer un discours dans la cour de la préfecture. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron, qui a notamment appelé, je cite, « la nation tout entière à se mobiliser face à l'hydre islamiste ».
4 cercueils recouverts du drapeau tricolore sous une pluie battante, un silence lourd, chargé d'émotions et d'inquiétudes pour ces fonctionnaires de police réunis ce matin dans la cour de la préfecture de police de Paris. Visage fermé, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole pour dénoncer un islam radical, un islam dévoyé, porteur de mort. Ce qui se joue, dit-il, c'est l'unité de la nation.
Faisons bloc, sans relâche, contre l'islamisme, contre ces idéologies mortifères qui ne reconnaissent ni nos lois, ni notre droit, ni notre façon de vivre. Faisons bloc pour l'unité de la nation, en sachant rassembler tous les Français, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction.
Les mots du chef de l'État sont forts. Il en appelle à regarder la vérité en face et demande aux Français à ne pas s'habituer à se mobiliser dans ce combat face au terrorisme.
Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences, c'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République.
Et devant les cercueils et les familles des victimes, le chef de l'État a pris l'engagement de faire toute la lumière sur ce drame. Il a rappelé que tous les moyens humains, technologiques et juridiques seront mis en œuvre et renforcés pour combattre le terrorisme sans remettre en cause les libertés ni diviser la nation. Et dans ce discours résolument volontaire, Emmanuel Macron d'expliquer mener ce combat pour nos morts, pour nos enfants, au nom de la nation.
Merci Pierre Neveu. Alors est-ce parce qu'il est persuadé que la prochaine présidentielle se jouera sur les sujets régaliens et qu'il se retrouvera à nouveau face à Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron avait initié hier un débat sans vote à l'Assemblée sur le sujet sensible de l'immigration? Toujours est-il qu'Édouard Philippe a fixé plusieurs orientations. Le Premier ministre s'est notamment déclaré favorable à l'instauration de quotas. Le thème avait déjà été ébauché à demi-mot par le chef de l'État dans sa lettre aux Français en début d'année. Et pourtant, l'idée divise au sein même du gouvernement. Elle hérisse par ailleurs à gauche et laisse assez largement la droite sur sa fin. Je précise qu'un débat similaire aura lieu également demain au Sénat. Existe-t-il un risque d'embrasement social en France ? Seule certitude, les motifs de mécontentement semblent désormais se multiplier. C'est ainsi par exemple que 9 organisations, dont les 3 principaux syndicats de la fonction publique hospitalière, ont appelé à se joindre aux mobilisations des retraités ce mardi, mais aussi des sapeurs-pompiers la semaine prochaine, avant une journée morte annoncée pour début novembre. Les professionnels de l'aide aux personnes âgées appellent eux aussi à manifester ce mardi pour réclamer la création en urgence de 40 000 postes. Les syndicats dénoncent la faiblesse de l'enveloppe budgétaire pour l'aide à domicile. Enfin, cette journée sera aussi celle des agriculteurs qui, à l'appel de la FNSEA, ont prévu de mener des opérations escargots et des blocages dans toute la France. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, s'agissant des agriculteurs, les motifs de contestation sont nombreux. Ils protestent tout à la fois contre les arrêtés anti-pesticides, les accords de libre-échange, mais aussi, Anne-Laure, l'agribashing.
Oui, c'est peu de dire qu'ils vivent une situation compliquée, ces agriculteurs, dont le nombre n'en finit pas de décroître. D'ici une dizaine d'années, la moitié des agriculteurs qui travaillent aujourd'hui seront à la retraite et la transmission de leurs terres n'est qu'un des nombreux problèmes qu'ils doivent affronter. Prise entre le marteau d'une société consumériste pour qui le premier facteur d'attention lors d'achat alimentaire est le prix et l'enclume d'un modèle de production agricole industriel qui leur demande pour produire moins cher des investissements que beaucoup n'ont plus la force d'assumer. C'est sur ce mot d'ordre assez flou qu'ils se mobilisent donc aujourd'hui et vont continuer de se mobiliser d'ici la fin de l'année. Stop à l'agribashing, cette image dégradée dont ils souffrent dans l'opinion et qui peut difficilement se régler par une mesure spécifique. Malgré les discours de soutien du ministre de l'Agriculture, ces agriculteurs se sentent livrés à eux-mêmes, même s'ils ne sont pas un groupe homogène et que certains d'entre eux ont pris le parti de produire autrement avec d'autres difficultés. Cela dit, depuis des années, la France comme l'Europe n'ont pas de vision politique de ce que doit être l'agriculture. S'il existe bien un budget agricole commun, il n'y a pas de vision à long terme. Preuve en a été donnée lors de l'audition de celui qui doit devenir commissaire européen à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, qui n'a, selon les députés européens, pas du tout démontré sa capacité à gérer ce portefeuille. Lors de son audition, signe du peu d'intérêt de Bruxelles pour ce sujet essentiel. Enfin, les intrusions répétées dans les boucheries, sur les exploitations ou dans les élevages ont fait monter la colère d'un cran, en nourrissant le sentiment que c'est toute la société qui vient dire aux agriculteurs comment faire leur métier. Cette même société qui a idéalisé la ruralité et l'image du paysan à mesure qu'elle perdait son lien avec la terre.
Merci Anne-Laure Chouin. L'angoisse de l'avenir, mais aussi la peur du déclassement, ce sentiment ne traverserait plus aujourd'hui les seules familles modestes. Selon une étude publiée par l'IFOP, les classes moyennes en France se sentiraient elles aussi exclues. Et pour évoquer avec nous donc ce phénomène inquiétant, invité de la rédaction aujourd'hui, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés en studio pour vous interroger, Marie Bienneau. Bonjour Marie.
Bonjour.
Jérôme Fourquet, voilà plusieurs années déjà que les chiffres de la classe moyenne en termes de niveau de vie sont plutôt bons. Pourquoi ce sentiment de déclassement social ?
Alors, il faudrait mettre un pluriel à classe moyenne qui regroupe encore une part très importante de la société française, mais on s'aperçoit que ces classes moyennes se polarisent avec toute une partie du bas de la classe moyenne qui éprouve et ressent un sentiment de déclassement. C'est ce qui d'ailleurs a été le carburant, si vous me permettez l'expression, de la crise des gilets jaunes, avec la phrase qu'on a entendue à maintes et maintes reprises sur les ronds-points, une fois que nous avons tout payé, nous n'avons plus rien sur notre compte avant même la fin du mois. C'est toute la problématique des dépenses contraintes et la fragilisation d'une partie de la classe moyenne qu'on peut appeler les décrocheurs, ceux qui ont le sentiment de ne plus participer à la société de consommation, aux loisirs. Et dans une société comme la nôtre qui est très désidéologisée, où les valeurs religieuses ne sont plus des valeurs structurantes, eh bien l'identité des individus se construit beaucoup à travers leur consommation et leurs loisirs. Et donc c'est pour cela que derrière cette question du pouvoir d'achat, il y a une question identitaire au sens de définition de soi-même qui est posée à toute une partie de la population.
Une question de Marie Vienneau.
Oui, alors il n'y a effectivement pas de définition vraiment harmonisée de ce qu'est la classe moyenne, mais ce qu'il y a d'intéressant dans votre enquête, c'est la trajectoire en fait. Il y a 10 ans, 70% pardon, des personnes interrogées pensaient faire partie de la classe moyenne, et aujourd'hui seulement 58%.
Oui, effectivement, donc on a des études au long cours, et on voit très clairement qu'un décrochage s'est opéré, et c'est pas un hasard, au moment de la crise économique de 2008, dans l'autopositionnement que les Français déclarent, 7 sur 10 se définissaient comme appartenant à la grande classe moyenne, ils sont plus de 58%, alors c'est encore une majorité, mais on a perdu 12 points exclusivement au profit de ceux qui se classent dans la catégorie d'en dessous, c'est-à-dire la catégorie modeste ou pauvre, qui, elle, a progressé assez significativement. Pour répondre à ce sentiment et cette réalité du déclassement, nous avons observé que sur différents marchés économiques, eh bien, les entreprises s'étaient adaptées, qu'il s'agisse de l'offre de hard discount, qu'il s'agisse par exemple dans le secteur automobile du succès phénoménal remporté par une marque comme Dacia, qui est aujourd'hui la troisième enseigne la plus achetée par les particuliers. On observe ainsi la mise en place de ce qu'on pourrait appeler un marché secondaire qui s'adresse au bas de cette classe moyenne, et cette classe moyenne en voie de décrochage qui adopte de plus en plus les codes de ce qu'on pourrait qualifier d'économie de la débrouille, la chasse aux promotions, le recours important au bon coin, le fait maison, la réutilisation de produits de seconde main. Tout ça se développe et tout ça constitue des symptômes de ce décrochage d'une partie, encore une fois, c'est pas toute la classe moyenne, mais du bas de cette classe moyenne.
Alors, cette peur du déclassement de la classe moyenne, elle n'est pas nouvelle. En 2006, donc avant même la crise financière et ses effets délétères sur le plan social, le sociologue Louis Chauvel avait titré son livre « Les classes moyennes à la dérive ». Il décrivait un mouvement silencieux et secret qui justement s'inscrivait dans un temps long et qui évoquait la dérive des continents. 13 ans plus tard, rien ne semble donc enrayer cette dérive.
Non, alors effectivement, Louis Chauvel écrivait avant la crise de 2008. Donc nous venons de retrouver des niveaux de pouvoir d'achat qui étaient ceux d'avant la crise de 2008. Mais il faut toujours être prudent, même si ces indicateurs sont tout à fait pertinents. Il s'agit de moyennes, et ces moyennes masquent des évolutions. Et donc on a notamment un phénomène de désarrimage à la classe moyenne d'une partie de la population française. Louis Chauvel avait étudié ça très attentivement. Nous l'observons en termes de type de consommation, en termes aussi de recours à l'endettement en termes de crédit à la consommation, qui ont explosé en l'espace d'une vingtaine d'années. Alors, tout cela n'est pas propre à la société française. On retrouve les mêmes phénomènes dans toutes les grandes démocraties occidentales. Et bien évidemment, tout cela n'est pas non plus sans conséquences au plan électoral et politique.
Merci Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Marie Viennot. Un impressionnant panache de fumée noire s'est échappé ce matin de Villeurbanne près de Lyon en raison d'un important incendie en passe d'être maîtrisé sur une friche industrielle. Aucun blessé n'a été signalé. Au total, ce sont quelques 5000 mètres carrés de bureaux qui ont été ravagés par les flammes. Le site ne stockait aucun produit dangereux. Il n'y a pas non plus de site Seveso à proximité. Des analyses de la qualité de l'air sont toutefois en cours, précise la préfecture qui n'a décrété aucune mesure de confinement. S'il est une chose désormais tenue pour acquise avec le président américain, c'est que rien jamais ne peut être précisément tenu pour acquis, ou quand la seule constance dans la politique de Donald Trump serait au fond son inconstance. Hier, moins de 24 heures après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, ses anciens alliés dans la lutte anti-Daesh, le locataire de la Maison Blanche, sous la pression internationale mais aussi de son propre camp, a finalement fait marche arrière dans une certaine confusion, au point d'aller jusqu'à mettre en garde à présent Ankara contre tout excès. Dans un tweet dont lui seul semble avoir le secret, mais plus encore avec une prose inégalable, Donald Trump a écrit « Si la Turquie fait quoi que ce soit, dont j'estime dans ma grande et inégalable sagesse que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie. » Quoi qu'il en soit, et si les responsables américains martèlent désormais n'avoir donné aucun feu vert à une opération turque, en revanche, ils confirment aussi que les États-Unis n'y feront pas barrage militairement. En d'autres termes, ils se contentent pour l'instant de faire pression en menaçant la Turquie de représailles économiques, tout en affirmant qu'en cas d'offensive, eh bien, Ankara serait pleinement responsable non seulement de la situation humanitaire mais aussi d'une possible résurgence de Daesh, sans oublier le sort des djihadistes étrangers détenus aujourd'hui par les forces kurdes. Cette question de la présence de nombreux membres du groupe État islamique dans les prisons kurdes est évidemment centrale, et en l'occurrence Bertrand Galichet, eh bien, elle préoccupe tout particulièrement la France.
Cette question est majeure pour la France, qui s'inquiète des limites de sa propre politique concernant les membres de l'État islamique aux mains des Kurdes, à savoir la détention et le jugement des djihadistes dans le pays où ils ont commis leurs crimes, même s'il s'agit de terroristes étrangers. Cette position a été réaffirmée hier encore par le Quai d'Orsay. La France, déjà touchée au cœur par les réseaux islamistes, ne veut pas prendre le risque de transférer dans l'Hexagone des militants de Daesh qui poseraient un énorme problème sécuritaire. Sauf que depuis des mois, les combattants kurdes mettent en garde les Occidentaux contre leurs difficultés à assurer la surveillance des membres de l'État islamique emprisonnés et de leurs familles retenues dans des camps. Dans ce contexte, il est facile de voir les conséquences qu'une opération militaire turque pourrait avoir sur ces prisons et sur ces camps, d'où des islamistes potentiellement très dangereux pourraient s'évader en nombre. Imaginez ces bombes à retardement disséminées dans la nature, fait froid dans le dos des dirigeants occidentaux et en particulier du gouvernement français. La menace est d'autant plus précise que les réseaux dormant de l'État islamique s'active déjà autour des camps. La corruption qui se développe a permis l'évasion de familles de djihadistes. En cas d'incursion de l'armée turque, à laquelle s'opposeraient farouchement les Kurdes, le chaos serait naturellement propice à des attaques de camps et de prisons où se trouvent des membres de Daesh. La France met aussi en garde contre les conséquences humanitaires pour toutes les populations de la région.
Dans l'affaire ukrainienne, à l'origine de la procédure de destitution initiée par ses adversaires démocrates, la pression s'accentue contre Donald Trump. Hier, trois commissions de la Chambre des représentants ont assigné le département américain de la Défense et le bureau du budget de la Maison-Blanche afin qu'ils leur soumettent des documents liés à la décision du président américain de suspendre une aide militaire à l'Ukraine. Un lanceur d'alerte accuse, je vous le rappelle, Donald Trump de s'être servi de cette aide de 400 millions de dollars promise à Kiev comme levier pour obtenir de son homologue ukrainien qu'il ouvre une enquête contre Joe Biden et son fils. Plusieurs auditions à huis clos de diplomates américains sont prévues cette semaine au Congrès. Quant à Donald Trump, qui nie toute inconduite dans cette affaire, il a déclaré hier que cette enquête était, je cite, une escroquerie. Toujours aux États-Unis, un employeur a-t-il le droit de licencier un salarié parce qu'il est homosexuel ou transgenre? La question qui divise profondément la société américaine et les tribunaux arrive aujourd'hui devant la Cour suprême dans un contexte extrêmement politisé en l'occurrence. Et même si les droits des minorités sexuelles auront surtout avancé ces dernières années grâce aux tribunaux, dont la Cour suprême, laquelle avait notamment légalisé en 2015 le mariage homosexuel, le gouvernement apporte lui aujourd'hui son soutien aux employeurs. La Cour a par ailleurs elle-même basculé dans le camp du conservatisme avec l'arrivée de deux juges nommés par Donald Trump. Quant à l'administration républicaine, arrivée au pouvoir avec le soutien de la droite évangélique, eh bien elle plaide certes pour une lecture étroite de la loi qui interdit les discriminations sur la base du sexe, sauf que le sexe fait ici référence au fait d'être né homme ou femme, mais pas à l'orientation sexuelle ni l'identité de genre. Alors aujourd'hui, la Cour suprême se penchera donc sur le cas d'un employé d'une société funéraire, licencié après avoir annoncé à son employeur qu'il était en train de changer de sexe et qu'il voulait désormais un uniforme féminin. C'est le patron de l'entreprise de pompes funèbres qui a lui-même saisi la Cour suprême, estimant qu'un précédent jugement n'avait pas respecté ses convictions religieuses. Les précisions à Washington de notre correspondant Grégory Phillips.
Accompagné et soutenu par plusieurs associations LGBTQ, Amy Stephens va donc raconter son histoire aux 9 juges de la Cour suprême. Son enfance, petit garçon, dans une famille baptiste de Caroline du Nord, et la sensation de ne pas être dans le bon corps. Puis le début de sa transition il y a 10 ans, enfin ce jour de 2013, où cet embaumeur dans une société de pompes funèbres écrit à son patron pour lui demander un uniforme féminin.
I gave him the letter.
Je lui ai donné ma lettre. Il a répondu « Je dois y réfléchir ». Puis un après-midi, il est revenu et il a dit « Ça ne va pas marcher ». Alors j'ai pensé « Ok, je me fais virer, mais je ne vais pas laisser passer ça ».
La juridiction la plus haute des États-Unis va donc devoir dire si au nom des convictions religieuses de l'employeur, il avait le droit de se séparer d'Amy Stephens. Ce procès se déroule alors que la Cour suprême est aujourd'hui dominée par les juges conservateurs et que l'administration Trump cherche à limiter les droits des personnes transgenres. Interdiction de servir dans l'armée, suppression de plusieurs dispositions les protégeant en matière de couverture santé. La Cour rendra sa décision l'été prochain dans un pays où seule une 20aine d'États sur 50 ont adopté des lois protégeant les droits des personnes LGBTQ.
Le prix Nobel de physique a été décerné ce matin pour moitié à l'américain James Peebles pour ses travaux sur le cosmos et pour moitié aux Suisses Michel Mayer et Didier Queloz, récompensés pour avoir découvert la première exoplanète en orbite autour d'une étoile comparable à notre Soleil. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, gris et pluvieux sur le nord du pays avec un vent soutenu le long des côtes de la Manche et ensoleillé au sud, même si quelques nuages bas feront leur apparition du côté du Piémont pyrénéen et sur le littoral méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.